Parlons-nous. Bienvenue sur Europe 1, nous allons ensemble goûter les mots et découvrir l'histoire d'une langue qui bouge. Aujourd'hui, les chroniques de langue, celles que l'on peut lire dans les journaux, celles qui mettent le doigt sur nos erreurs, celles qui suivent à la trace les usages, ou celles qui viennent nous expliquer, avec humour souvent, les règles oubliées d'une grammaire pas si simple. Devenues une tradition dans la presse écrite, ces chroniques ont plus ou moins le vent en poupe, suivant les époques, et il semble qu'aujourd'hui, elles se portent bien, pour preuve, l'épidémie d'analyse linguistique qui entoure cette nouvelle campagne électorale. Pour parler de ces papiers consacrés à la langue, nous recevons deux chroniqueurs. Jean Pruvot, bonjour.
Bonjour.
Chroniqueur de langue à l'Est républicain, directeur de collection pour les dictionnaires Bordas, spécialiste de l'histoire des dictionnaires, auteur de Les dictionnaires français, outils d'une langue et d'une culture, édition Ofris, et pour les éditions du PUF, des dictionnaires français. C'est le titre. Et Bruno Dewel, bonjour Bruno.
Bonjour.
Vous êtes chroniqueur de langue à La Voix du Nord, champion du monde d'orthographe, je vous félicite, ça il faut le faire, auteur de À la fortune du mot, un recueil qui présente un florilège des chroniques publiées dans La Voix du Nord, et ce sont les éditions La Voix du Nord, et vous êtes agrégé de lettres. Avec nous également Nicolas Delorme pour l'actualité de la langue. Nicolas, le sujet?
Les auteurs de versions françaises des films et des séries étrangères, en particulier des séries policières américaines, tapent du poing sur la table à l'occasion d'une table ronde qui vient d'être organisée par la SACEM. Ils ont expliqué que on leur impose de faire dans le politiquement correct. Vous allez voir que les propos de Jack Bauer de la série 24 heures ou de Michael Scofield, héros de Prison Break, sont très édulcorés en France. Les auteurs parlent même de trahison.
Jean Prévost, Bruno Dewel, comment peut-on définir les chroniques de langue? Vous savez, donc celles que vous écrivez, messieurs, et qu'on peut lire dans la presse. Jean?
Je crois que c'est tout simplement d'abord une passion pour les mots,
oui.
Une passion pour la langue française, mais aussi les autres langues, mais d'abord la langue française, et puis l'envie de le raconter. Alors évidemment, le mot chronique lui-même a toute une histoire qu'on pourra peut-être évoquer.
C'est-à-dire une histoire?
Le mot chronique vient du grec chronos, chronikos, qui donc a rapport au temps. Et au début, ça avait plutôt mauvaise presse, parce que c'était les chroniques, l'histoire qui était faite. Et Pierre Larousse dit, par exemple, des premières chroniques historiques, qu'elles étaient d'une désespérante sécheresse quelquefois, mais abondantes le plus souvent en renseignements. Et puis alors après, le tout s'est amélioré.
Ça veut dire qu'il leur manquait un peu d'humanité.
Oui, c'est des chroniques historiques. Pour l'histoire, on est loin de la chronique de langue. Et puis petit à petit, au 19e siècle, la chronique a pris un autre sens. Et Pierre Larousse dit aussi qu'elles sont le reflet, heure par heure, de la vie courante. Elles rappellent à peu près les chroniques plus ou moins scandaleuses, plus ou moins burlesques du siècle dernier. Et puis alors, là j'ai fouillé, pour le plaisir, dans le grand dictionnaire universel. Et alors c'est assez extraordinaire parce que Pierre Larousse évoque ce qu'un lecteur, on est en 1868 à peu près, ce qu'un lecteur de 2000 pourrait trouver dans les chroniques. Donc ça c'est curieux.
Ah, qu'est-ce qu'il dit ?
Et alors vous voyez, je l'ai sous les yeux, il y a deux colonnes. Alors une chronique sur autrefois les étahirs, c'est-à-dire les petites vertus, disons. Jadis, en Grèce, on divinisait la beauté, les courtisanes y réalisaient ce que nous appelons aujourd'hui la vie de salon. Puis alors il dit aujourd'hui. Et alors, il dit aujourd'hui, donc on est à la fin du 19e siècle, pour imaginer ce que les lecteurs de 2000 mettront en avant.
Dans une
chronique. Et alors, ça s'appelle plus les étahirs, mais les grues. Alors ça, c'est terrible.
Et ça, les grues, c'est quoi?
Aujourd'hui, la courtisane, c'est-à-dire la grue.
Et c'est la courtisane.
Parce qu'elle fait
la grue. C'est la grue, oui.
C'est ça. Et fille de portière ou de blanchisseuse, elle a fait son éducation dans une échoppe du savetier et s'est d'abord exercée à piquer, dit-il, des bottines. Et puis alors, c'est là où ça nous rapproche tout de suite avec Bruno Dewel de la langue. Il évoque sa conversation est au même niveau. Je me la brise, c'est topique. As-tu du chien? Tu peux te fouiller. C'est un catéchisme adorable. Elle se maquille, etc. Donc vous voyez des expressions comme...
Ça veut dire qu'il met en avant
c'est topique,
les expressions populaires.
Voilà. Alors dans le fond, c'est le chroniqueur de l'an 1868 et quelques. Un peu ce que nous faisons aussi aujourd'hui quand on essaye d'observer la langue. et qui là, bah, pour nous, en 2000 et quelques maintenant, bah, nous permet de repérer.
Mais c'est ça qu'on trouve, Bruno Dowell, dans les chroniques, entre autres, les expressions de langue, l'évolution de la langue, mais je dis entre autres parce que ça n'est pas que ça.
Non, je crois qu'il est difficile de définir la chronique de langue. Il y a autant de conceptions, je pense, qu'il y a de chroniques en France et dans les journaux que nous évoquions tout à l'heure. Je crois qu'il s'agit d'abord, enfin en ce qui me concerne, de jouer avec les mots. Je ne suis pas pour ma part linguiste, ni d'ailleurs étymologiste. Je suis venu
Vous êtes champion du monde.
Oui, je suis ce que Victor Hugo, quel lapsus. Je suis ce que Bernard Pivot, ben, il sera flatté du rapprochement, j'en suis sûr. Je suis ce que Bernard Pivot appelait, avec peut-être une petite nuance péjorative dans le dans la voix, un athlète du dictionnaire. Hein. Pivot n'aimait pas trop que nous lisions les dictionnaires de A à Z. Il voulait accréditer l'idée que l'on pouvait devenir champion, comme ça, je dirais, un petit peu en dilettante, ce qui est faux. Il y avait, je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de travail derrière tout cela, jusqu'à 13 heures par jour. Donc je suis venu à la chronique de langue. Moi j'ai une formation littéraire, je suis professeur de lettres. Je suis venu à la chronique de langue parce qu'on me l'a demandé, la Voix du Nord m'a contacté suite à ce championnat du monde auquel vous faisiez allusion tout à l'heure et qui a eu lieu à New York en 1992. Et je dois dire qu'on m'a laissé une totale liberté à la Voix du Nord d'action. Moi, véritablement, la chronique, c'est marier la langue à l'actualité.
Ça veut dire que vous faites des portraits sociologiques de ce que peut être l'actualité d'aujourd'hui.
Bon, je n'aurais peut-être pas cette prétention. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, l'actualité provoque la réflexion linguistique et pas l'inverse. Jamais je ne me dis, cette semaine, je vais travailler sur le pluriel des mots composés.
Et je vais chercher dans l'actu.
Voilà, j'attends que Sarkozy se casse la figure à bicyclette pour traiter le pluriel de calepied.
Vous partez de la chute de Sarkozy vous traitez le calepied.
Je me suis demandé, par exemple, lors d'un coup de boule mémorable, je me suis demandé si Zidane avait été insulté ou injurié. Parce qu'il y a une petite nuance dans la langue. Donc, je pars toujours de l'événement, si possible d'un événement naturellement qui a défrayé la chronique, comme on le dit. Et après, j'essaie de trouver un rapport avec un problème linguistique.
Nicolas ?
Alors, Zizou, insulté ou injurié ?
Écoutez, je vais prendre une réponse, adopter une réponse de Normand, les deux en général, parce que...
Ouais, donc ça méritait bien, coup de
voilà, vous. Voilà. L'insulte, c'est une véritable agression. L'injure, c'est un manquement au droit. Le ius latin. Donc, dans les deux cas, il avait été insulté et injurié.
Ce qui fait que votre chronique, en fait, sont des tribunes, messieurs.
Ça peut arriver, oui.
Ça peut arriver.
Oui, alors, c'est exactement, évidemment, le principe. C'est regarder l'actualité, en tirer les mots qui émergent, soit des mots concepts, soit alors des mots, il y a eu bravitude dernièrement, bon, qu'on aurait pu le traiter, qu'on n'a pas traité, mais qui...
Mais que vous avez traité, en fait, parce que vous dites l'un et l'autre que vous ne l'avez pas traité, vous le traitez. Voilà. Je l'ai lu chez vous, Bruno Dowell. Voilà. Je n'en parlerai pas, et toute la chronique est sur la bravitude. Avec une jolie fin, et je vous redonne la parole, Jean Prouveau, quelle est la dernière phrase de votre bravitude ?
Cela a d'ailleurs un très beau nom, femme royale, et celui-là est à consommer sans modération, cela s'appelle la gratitude, mais naturellement je faisais allusion à la fin des lettres de Giraudoux, puisque j'adore cette fin, cela s'appelle l'aurore, qui a donné d'ailleurs son nom à un film, un titre de film, et bon, je voulais dépassionner le débat, reconnaître que il n'est pas facile pour nos hommes politiques de ne jamais commettre d'erreur, mais en même temps plutôt mettre l'accent sur le nécessaire intérêt que doivent avoir les hommes politiques pour la langue française une fois qu'ils sont au pouvoir.
Ah, vous parlez quand même d'erreur.
Oui, vous préféreriez que je parlasse de faute.
En fait, que vous voulez.
Oui, d'accord, oui. Ah bah, écoutez, en tout cas, c'est une création, c'est un néologisme. Je sais que Jack Lang a trouvé le néologisme particulièrement réussi, qu'il a mélangé plénitude et bravoure. Mais Jack Lang est dans le camp de Ségolène Royal. Il fallait qu'il trouvât ce que j'appellerais une excuse tout de même. Je pense que ça a été un dérapage. Et je pense qu'il aurait mieux valu qu'on le reconnût comme un dérapage, parce qu'après tout, ça arrive à tout le monde, mais je ne pense pas que ce fût voulu, non.
Jean Prouveau, je reviens donc à cette tribune, parce qu'on le voit bien là avec Bruno Dowell, c'est une tribune qu'on vous donne,
oui,
c'est quand même une grande chance, ça dépasse le travail du linguiste.
Alors, avec l'Est républicain, j'ai une très grande chance. En fait, on m'indique le mot qui, dans la semaine, ou dans l'air du temps, est intéressant. Alors Jean-Pierre Lansquin, avec beaucoup de talent, trouve le mot.
Bravité.
On me l'envoie le mercredi soir, oui. C'est-à-dire on m'indique que c'est tel mot. Et puis à partir de là, moi j'ai la nuit, ou 4 ou 5 heures devant moi pour travailler, fouiller dans mes dictionnaires. Et je dois dire, c'est un immense bonheur, parce que c'est une forme de chercheur dans les dictionnaires, dans les ouvrages, dans ma bibliothèque. Je me sens un peu comme quelqu'un qui va déterrer des choses, déterrer... Alors, la manière de procéder est un peu systématique. Je commence par regarder, bien entendu, l'histoire du mot. Je cherche ensuite dans les 10 000 dictionnaires qu'on annonce là sur ces quatrièmes de couverture par les journalistes. Je ne sais pas si j'en ai 10 000, moi j'en ai bien 5 ou 6 000.
C'est-à-dire votre immense collection de dictionnaires.
Qui est plus grande que votre appartement.
Oui. C'est sur le palier, quasiment.
Et donc alors, là, vous fouinez là-dedans.
Alors, je fouine après les premiers dictionnaires. Par exemple, j'ai eu Faupas dernièrement. Alors, Faupas, je suis allé tout de suite chercher en 1571 un dictionnaire d'épithètes qui me donne pas... compté, grave, stable, mesuré, ferme, tardif, pas assuré, solide, formé, larron. Le pas larron. Bon, c'était délicieux. Puis à partir de là, je regarde ce que ça donne dans Richelet en 1680, dans Furtière en 1690, dans l'Académie en 1694, donc les trois dictionnaires fondateurs. Tout le 18e siècle, je regarde l'encyclopédie, je regarde la fin du 18e, et puis je me régale de Littré et du grand dictionnaire universel du 19e siècle. Puis je passe au dictionnaire contemporain, le trésor de la langue française. Nancy oblige, bien sûr, ce grand dictionnaire, les Robert, les Larousse, bien entendu. Et après, je vais du côté de cet enfer de ma bibliothèque, que j'appelle, le bel enfer, hein, les dictionnaires détournés. C'est-à-dire ces dictionnaires de citations amusantes, ces dictionnaires de mots transformés, les dictionnaires d'anagrammes, hein, qui fait que parfois vous trouvez des anagrammes assez plaisants. Et par conséquent, à partir de là, je bâtis.
Ça, c'est la matière.
Voilà.
Alors, en fait, ce sont les pierres que vous mettez les unes à côté des autres alors, avant de les assembler.
C'est ça. Alors, j'ai 10 fois plus de documents qu'il ne faut, mais j'ai beaucoup de choses. Et après, j'essaye de me cantonner à un nombre de signes donnés, parce que sinon, si laisse faire, je remplis la page du journal.
Hein, en sachant donc que
la
contrainte pour vous, Jean Pruvot, est que le mot qui est imposé, alors que pour vous, Bruno Devel, vous avez toute liberté.
Rien n'est imposé, j'ai toute liberté. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos de la tribune. En tout cas, il ne s'agit jamais d'une tribune politique. Il faut se méfier, parce que naturellement, on pourrait le penser quand je rebondis sur la bravitude.
Mais ça, c'est l'actualité qui vous,
voilà, c'est l'actualité
qui vous mène à la politique.
J'ai ajouté, naturellement, je me suis fait l'écho de la déclaration de ce député UMP qui souhaitait que la campagne électorale puisse se dérouler avec l'usage d'une langue française pure et irréprochable. J'ai ajouté vaste programme. Et immédiatement, je me suis dit, est-on prêt à jurer que le héros d'en face, H-E-R-A-U-T, naturellement, pense toujours à ménager ses propres participes et pas seulement en se rasant, parce que de l'autre côté, il y a aussi des choses à dire et à redire. Donc, je ne voudrais pas du tout que l'on m'accusa de faire la campagne de l'un ou de l'autre. Mon seul parti, c'est le parti de la langue française et je n'entre pas dans ces débats.
Ouais. Mais on sent bien en fait comment vous y êtes devenu l'un et l'autre. Vous, c'est quand même le goût de l'orthographe,
le goût de la langue.
Et vous, Jean Pruvot, le goût du dictionnaire.
Est-ce qu'il y a des différences,
parce qu'on va parler de vos collègues, des anciens et de ceux qui sont encore aujourd'hui dans les tribunes. Claude Duneton, par exemple, au Figaro. Il y a Pierre Merle qui, lui, n'est plus dans la presse aujourd'hui, mais écrit des livres de chroniques.
Travailleur de l'oreille qui traîne.
Exactement.
Comme il aime à se définir.
Travailleur de l'oreille qui traîne. Lui, son école, c'est la rue et les médias.
Voilà.
Il écoute, il chronique. Duneton, c'est les expressions, la littérature, les choses anciennes. Et il y a eu d'autres chroniqueurs dans le passé. Vous avez tous un centre d'intérêt au départ qui vous amène à écrire autour du mot et de la langue. Jean Prévost.
Bon, si vous voulez, quand j'ai eu 23, 24 ans, il y a donc assez longtemps maintenant, je venais d'acheter le dictionnaire de Furtière, de 1690, 3 volumes. Je l'ai lu de part en part avec un bonheur fou, en essayant d'exhumer des choses intéressantes. Et c'est vraiment, avant même d'avoir fini mon doctorat, je me suis dit, mais il faut faire des chroniques de cela. Et alors, avec, je dirais, l'inconscience de quelqu'un qui a 23, 24 ans, j'ai écrit une soixantaine de chroniques tirées de Furtière. Et alors,
donc là, c'est un contrat, c'est un contrat. Oui, c'est tant de
personne m'avait rien demandé. Vraiment rien demandé.
Pour le plaisir.
Pour le plaisir, et en me disant quand même, il faudrait qu'un journal me les prenne. Et alors, avec beaucoup d'audace, je suis allé voir Le Monde, je suis allé voir Le Figaro, je déposais mes ouvrages, enfin, pas les ouvrages, mais les 60 chroniques. Ils trouvaient ça gentil, mais bon, ça n'allait pas plus loin. Et puis finalement, Miroir de l'Histoire me les a publiés. Quand ils m'ont publié la première chronique, je sais pas si je vais oser l'avouer.
Qui vous les a publiés?
Miroir de l'Histoire.
Miroir de l'Histoire.
Qui a disparu depuis. J'ai acheté 15 ou 20 Miroirs de l'Histoire, que j'ai distribué aux amis, très fiers. C'était quasiment la première publication. Et puis de là, après, quelqu'un qui faisait une revue d'enseignement commercial m'a demandé de faire des chroniques. Ouais. Et puis de fil en aiguille, je n'ai jamais cessé d'en faire. Je trouve que pour un homme qui se passionne pour l'orthographe, champion du monde, ou quelqu'un qui se passionne pour les dictionnaires, c'est une forme d'entraînement sain, hebdomadaire ou mensuel ou bimensuel, peu importe, qui permet, pour moi, c'est un exercice de lexicologie chaque semaine. Je vais fouiller dans les dictionnaires et l'objectif, c'est sans doute, alors, d'une certaine manière, celui qui est chroniqueur dit ce que tout le monde sait déjà un peu du côté des historiens de la langue.
Oui, hein, des spécialistes.
On réinvente pas l'étymologie. Mais ce qui est assez exceptionnel, c'est que chez Bruno Dewel, comme chez moi-même ou comme tous les autres, on parlera bien entendu de Claude Duneton ou bien entendu d'Alain Rey,
par exemple.
On ajoute un petit quelque chose. Et ce petit ajout, on est les seuls à l'ajouter. Je vais donner un exemple. On m'a demandé il y a quelque temps donc le mot indigène. Et ces mots sont merveilleusement choisis à chaque fois. Mais parfois ils me disent, je vais avoir du mal à traiter. Est-ce que je vais avoir des choses? Alors je fouille systématiquement et je trouve effectivement un certain nombre de dictionnaires dans lesquels le mot indigène dès le départ est évoqué. Mmh. Et en fin de parcours, je trouve un sens péjoratif, habitant d'une localité, et on dit avec la châtre qu'il y a les habitants de Pontoise, un indigène de Pontoise égaré au bal de l'Opéra. Vous savez que je suis prof à l'université de Cergy-Pontoise. Je découvre là que Pontoise, qui avait déjà mauvaise presse un peu, parce qu'il y avait un œil à Paris, un œil à Pontoise, celui qui revenait de Pontoise, député, c'est pourtant une ville magnifique, une université magnifique aussi. Mais là, d'un seul coup, je trouve quelque chose que personne n'a mis en avant. Alors même dans les étymologies...
Ça c'est votre signature, en
voilà,
fait.
Voilà, de temps en temps, dans les étymologies... On avance quelque chose parce qu'on a trouvé quelque chose. Et il faudrait presque dire au lecteur, vous voyez là, ça, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. C'est nous. Dans la chronique, c'est pour ça que ceux qui collectionnent les chroniques, on reçoit des courriers, c'est merveilleux, on essaie d'y répondre. Ceux qui collectionnent les chroniques ont raison. Parce que après, ça fait des ouvrages, mais ça fait pas toujours des ouvrages.
C'est ce que vous avez fait, Bruno Dewel. Voilà. Vous avez fait un bel ouvrage. On attend le prochain. On va y revenir, si vous le voulez bien, dans quelques minutes.
D'accord.
Parlons-nous. Pascal Lafitte-Certa.
L'actualité de la langue, on y est toujours et encore avec Nicolas Delourme, comme chaque dimanche. Et si la censure des séries et des films étrangers, en particulier des séries américaines, était beaucoup plus sournoise qu'on ne le croit. C'est ce que dénoncent les auteurs de versions françaises. Lors d'une récente table ronde, la moitié d'entre eux s'est emportée contre les interdits linguistiques imposés par les chaînes françaises.
Fuck you. Voilà,
ça commence.
C'est agréable. Le mot est lancé à la radio, mais vous avez de moins en moins de chances de l'entendre dans une série ou un film américain, même si le scénario met en scène des personnages qui ont davantage le profil de s'échanger des noms d'oiseaux que de s'envoyer des fleurs. Le fuck you anglais est remplacé par un plus sobre va te faire voir, tandis que l'insulte suprême, motherfucker, finira dans une version française très édulcorée en espèce de voyou ou enfoiré. Le politiquement correct prend le dessus dans les traductions des films et des séries étrangères, y compris dans les plus violentes d'entre elles, comme Prison Break, 24 heures ou The Child, dans lesquelles on imagine pourtant mal deux assassins notoires faire dans l'exquise courtoisie. Les auteurs de doublage et de sous-titrage en ont gros sur la patate. Ces professionnels ne sont pas chargés de traduire les versions originales des films et des séries, encore moins de prêter leur voix aux acteurs originaux. Ce travail est confié à des comédiens. Leur mission consiste à produire un texte cohérent pour une version française. Un boulot pas évident, car il faut respecter la rythmique des propos, la forme de la bouche de l'acteur, le mouvement de ses lèvres, les respirations, la cohérence et surtout trouver des équivalents culturels français.
Qu'est-ce que vous appelez, Nicolas, des équivalents culturels ?
Alors vous allez comprendre, Jean-Louis Sartou, président de la commission de l'audiovisuel à la SACEM et auteur de versions françaises depuis une vingtaine d'années, a un bon exemple. Dans une série américaine que je traduis en ce moment pour M6, un flic utilise une expression de William Shakespeare, explique Jean-Louis Sartou. Or, si Shakespeare fait partie du langage quotidien des anglo-saxons, donc ne choque pas dans la bouche d'un flic, un peu comme des expressions de Molière sont entrées dans la langue française chez nous, on ne peut pas traduire du Shakespeare mot à mot, soit parce que le téléspectateur ne le comprendrait pas, soit parce que le flic passerait subitement pour un gros intello, et ça ne colle pas au personnage. L'équivalent culturel consiste donc à trouver une expression semblable en français, sans travestir le contexte de la version originale. Seulement voilà, en plus de cette difficulté à rendre cohérent des œuvres qui ne sont pas forcément destinées à un public étranger, les chaînes de télévision et les donneurs d'ordre sont de plus en plus frileux. Depuis une bonne dizaine d'années, on nous donne des directives et des consignes que nous ressentons comme arbitraires, fluctuantes et absurdes, rapporte Jean-Louis Sartou. Les auteurs dénoncent les interdits qui pèsent de plus en plus lourd sur leur travail, en premier lieu, l'impossibilité de faire référence à des noms de marques. Par exemple, le témoin d'une scène de crime a vu un tueur qui s'enfuit au volant d'une Ferrari, mais il explique dans la version française que l'assassin est parti dans une voiture de sport rouge. Dans le même genre, vous ne verrez plus quelqu'un s'attabler dans un fast-food et commander un Coca-Cola. Le nom de la marque est remplacé par le mot générique soda, alors que personne n'a l'idée de commander un simple soda sans préciser la marque. C'est d'autant plus vrai quand on voit à l'image le serveur tendre à son client une bouteille de Coca-Cola, précise Jean-Louis Sartou. Les chaînes de télévision craignent d'être taxés de publicité déguisée. Pourtant, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'est pas si sévère que ça sur cette question. Nous apprécions au cas par cas la visualisation de marques et n'intervenons que lorsque celles-ci sont indûment valorisées, précise le CSA. Une citation, si elle est purement fortuite, ne contrevient a priori pas à la réglementation publicitaire, les marques faisant partie de notre langage quotidien.
Alors, quels sont les autres chevaux de bataille des auteurs de doublage ?
Alors, surtout le politiquement correct, qui pollue les dialogues de films. Les auteurs rapportent qu'il y a des listes de mots.
Bruno Douel qui se lève les yeux au ciel, politiquement correct, ça vous connaît ?
Oui,
vous l'avez épinglé déjà.
J'ai entendu parler de péripatéticienne tout à l'heure, qu'on appelle aujourd'hui des travailleuses du sexe, voilà. Il me semble, donc en voilà un parmi beaucoup d'autres.
Donc à la télé, ça fonctionne comme ça, Nicolas ?
Oui, les auteurs rapportent qu'il y a des listes de mots tabous, peut-être putes, qui circulent dans les studios, et il ne s'agit pas forcément de gros mots. Par exemple, pour les dessins animés de Disney, le mot « mort » est banni des versions françaises. C'est ainsi qu'un oiseau pourtant bien mort, dead bird, dans la version anglaise, est devenu un oiseau simplement malade la version française, alors que le piaf avait bien l'air crevé à l'écran. Les incitations au vice sont depuis quelque temps particulièrement surveillées. Plus question de faire l'apologie de la cigarette ou de l'alcool. Un auteur rapporte qu'un personnage de film qui buvait un verre de mousseux en lançant « c'est bon comme du champagne » a fini par dire dans la version française « ça ressemble à du champagne ». Dire que le champagne est bon est devenu prohibé. À partir du moment où on change la langue de l'œuvre originale, on est de toute façon infidèle, explique Jean-Louis Sartou. Il ne faut pas pour autant tomber dans la trahison. Tous les mots qui désignent la drogue sont de plus en plus souvent remplacés par des notions beaucoup plus vagues. Encore un exemple, un personnage visiblement accro lance « donne-moi de la coke » à un dealer notoire dans la version américaine d'une série policière. À la télévision française, vous entendrez donne-moi ce que tu sais.
On n'appelle pas ça de la censure, messieurs. J'en peux vous.
Bien sûr.
C'est le nom que ça porte.
C'est le nom que ça porte. Bon, mais en même temps, c'est ce qui est merveilleux aussi dans une langue, c'est qu'à un moment donné, elle est victime de la préciosité, comme ça a été le cas au XVIIe siècle, hein, quand on disait pour les joues, les trônes de la pudeur, on avait les écluses du cerveau pour le nez, c'était pas très joli d'ailleurs.
Et le patrimoine pour les génitoires. Voilà. J'ai découvert ça tout à fait récemment, à l'occasion des journées du patrimoine.
C'est-à-dire les testicules.
Voilà.
Oui.
Ah, les journées du patrimoine.
Oui, exactement. Voilà qui contribue d'ailleurs à dépoussiérer, à dédramatiser un petit peu ces journées qui sont très culturelles, qui peuvent faire peur. Et bien dans ma chronique, j'ai montré que finalement, on pouvait voir les choses d'une manière plus terre-à-terre.
Et quand Coluche arrive, on parle des gesticules, alors c'est au chroniqueur de mettre en avant un certain nombre de choses. Alors, sans jeu de mots d'ailleurs.
Au chroniqueur, sans jeu de mots lorsqu'on parle de testicules. Est-ce que... Ce politiquement correct dénoncé par les auteurs de doublage, Nicolas, concerne également les communautés, notamment celles que l'on appelle les minorités ethniques.
Oui, vous avez raison, les mots noirs, juifs ou arabes sont souvent remplacés, comme dans le langage courant d'ailleurs, par des termes plus édulcorés, donc moins précis, sous prétexte de ne pas heurter les communautés ethniques, religieuses ou sexuelles, ou encore les handicapés ou les personnes âgées. De plus en plus de mots sont devenus tabous, ajoute Jean-Louis Sartou. Dans les films de Disney, l'expression « My God » n'est jamais traduite par son équivalent français « Mon Dieu ». On rapporte aussi le cas d'une série tournée en Allemagne et adaptée pour TF1 chez nous. Une scène montre des adolescents qui se moquent d'un groupe de lycéennes d'origine turque. Ils les traitent de « grosses turques » dans la version originale, mais cela pose un triple problème pour la chaîne française. « Grosse » peut heurter les personnes qui présentent de l'embonpoint. La scène un poil sexiste risque de réveiller les féministes et turc peut choquer la communauté concernée. L'expression grosse turque est donc devenue skaters idiotes.
Ça n'a rien à voir.
Non, probablement parce qu'on devait voir un skate dans les parages. Mais juste derrière, il y a une référence à Istanbul qui évidemment n'a plus de sens puisque les filles ne sont plus grosses, plus filles et surtout plus turques.
C'était lui le soleil qui faisait nos réveils chaque matin.
Et la mer était belle et nous courions vers elle main dans la main.
Et puis nous marchions sur la plage, tu cherchais des coquillages comme un enfant. Soleil, je t'aime, et pour toujours tu es fidèle. Mais l'amour n'est pas souvent comme toi. Pourquoi?
Tu avais toujours si faim, les fruits mûrs et le vin étaient.
Je te grondais quelquefois lorsque tu ne mangeais pas, ce n'était rien.
Et l'on s'allongeait sur le sable, nos rêves étaient semblables, je me souviens.
Nous parlions de la maison, des enfants que nous aurions, et nous étions bien.
Soleil, je t'aime. Et pour toujours, tu es fidèle. Mais l'amour n'est pas souvent comme toi. Pourquoi? Et c'est toujours lui le soleil qui fera mes réveils chaque matin.
Faudra-t-il de plage?
Combien d'autres visages
pour comme toi?
Oublier la maison et l'enfant aux cheveux blonds que nous n'aurons pas.
Soleil, je t'aime et pour toujours tu es fidèle. Mais l'amour n'est pas souvent comme toi. Pourquoi? Soleil, je t'aime et pour toujours tu es fidèle. Mais l'amour n'est pas souvent comme toi.
Soleil, Françoise Hardy et Alain Souchon.
Parlons-nous.
Jusqu'à 16h, Pascal Lafitte-Certa. Jean Prévost, il est chroniqueur de langue à l'Est républicain. Bruno Dewel, il est chroniqueur de langue à la Voix du Nord. Et tous deux nous font partager leur passion pour les chroniques de langue et puis aussi tout ce que portent et nous transmettent les chroniques de langue. Alors Jean Prévost, vous nous avez expliqué pourquoi vous étiez, vous, en tant que linguiste et spécialiste des dictionnaires, mis à la chronique, et ça remonte autant que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'est ça ? Et vous, Bruno Dewel, est-ce que ça remonte aussi à des temps lointains ? Et pour quelles raisons est-ce que vous y êtes mis à écrire ces chroniques ?
Mon itinéraire a été un peu différent. Je suis venu, vous le savez, au championnat dès 1985. Je n'avais absolument aucune idée de ce qui m'attendait, parce que je me suis aperçu très rapidement que cela impliquait de lire, encore une fois, les dictionnaires de A à Z, y compris d'ailleurs les noms propres. Bref, un travail quand même de bénédictin qui, dans les moments graves, pouvait atteindre 13 heures par jour. Et en même temps, j'ai été prodigieusement heureux. J'ai toujours à l'esprit cette phrase de Grévis qui disait qu'il ne fallait jamais admirer quelqu'un qui faisait ce qu'il aime. Et il m'est arrivé de répondre à certains journalistes que j'aimais autant passer mes vacances dans le Larousse que dans le Larzac. Bon, d'accord, c'était surtout pour l'allitération, c'est évident, parce que le Larzac est une région que j'aime, il va sans dire. Et je crois que j'ai voulu, avant toute chose, rendre un peu de ce plaisir qui a été le mien, parce qu'on apprend une foule de choses, une foultitude, dirait-on aujourd'hui, pour être branché, dans les dictionnaires. Et je crois que j'ai voulu, très modestement, marcher sur les dignes traces de Pivot, qui a prouvé que l'on pouvait s'amuser avec la langue française, que l'on pouvait s'amuser en faisant des dictées. Je me souviens de cette réflexion extraordinaire d'un enfant qui voyait entrer un samedi de demi-finale au lycée Janson de Sailly, si mes souvenirs sont bons, qui voyait des centaines de personnes aller faire une dictée. Il me dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire tous ces gens? Il répond, ils vont faire une dictée. La réplique de l'enfant avait été extraordinaire. Il dit, ah bon, et on les a pas obligés. C'était magnifique. Bon, eh bien, moi, j'ai voulu rendre un tout petit peu de ce plaisir que j'ai eu à mes lecteurs par le biais de la langue française.
Et ça fonctionne? Vous avez des retours de lecteurs?
Beaucoup, beaucoup.
Ouais.
Et il faut dire que le lectorat a toujours été dans le Nord, je suppose qu'il en va de même
dans l'Est.
Vraiment, a toujours été, je crois que c'est une tradition, la Voix du Nord, depuis la Libération, depuis la naissance du journal.
Il y a toujours eu des chroniques de langue.
Toujours.
Vous, Jean Prévost, les lecteurs, ils réagissent?
Moi, oui, ils réagissent. Et
ils vous ont d'Irlande, parfois?
Non,
pas trop.
Ils sont plutôt très gentils, mais ils me donnent parfois des informations. Mais ce que je crois très important, c'est qu'en chaque Français, Française, sommeille quelqu'un qui aime sa langue et qui a envie qu'on lui en parle, qu'on lui explique les mots. Avec un vague souvenir peut-être de l'école primaire où on explique les mots. Il y a quelque chose de l'enfance aussi. Et d'avoir une sorte... Moi, j'ai toujours l'impression d'écrire à des amis. Quand j'écris dans une chronique, je vois des lecteurs, jeunes, moins jeunes. Je les rencontre parfois quand je vais à Nancy pour faire telle ou telle conférence. Et c'est un véritable bonheur que de communiquer avec eux. Donc en fait, on écrit pour quelqu'un. Je crois que c'est ça la chronique. Un livre, on l'écrit pour un public large. Là, on l'écrit pour quelqu'un, pour une région. Et ça, c'est quelque chose d'assez profond. Et alors, on va chercher, fouiller pour eux quelque chose qu'ils ne trouveront nulle part ailleurs. C'est en ce sens que chaque chronique est particulière et chacune est intéressante. Je vous ai apporté ici là, une dizaine d'ouvrages.
Oui, je vois. Avec des recueils, en fait, des florilèges de chroniques.
Et on ne les regarde pas. C'est-à-dire que quand on fait l'article, je regarde les dictionnaires seulement.
Vous ne vous inspirez jamais de vos collègues.
Jamais. Et après, parfois, je regarde et je découvre avec bonheur une autre approche, une autre manière de faire. On a chacun nos approches. Et c'est ça aussi qui fait... Alors, vous savez, il y avait des vieux mots qui me déplaisent pas. Il y a eu la chroniquette.
Oui.
La petite chronique. Il y a le verbe chroniquer, on le voit dans le trésor de la langue française. Et en regardant dans les dictionnaires...
Oui, mais le verbe chroniquer avait disparu, je crois. Il avait quitté les dictionnaires, il est revenu assez récemment dans les dictionnaires.
Il a été revalorisé
par Larousse.
La chronique était uniquement historique. Et si on fouille dans les dictionnaires de synonymes, d'analogies, je pense au dictionnaire Bordas, que je dirige, où on joue les synonymes, l'analogie, on s'aperçoit qu'il y a chronique dramatique, chronique littéraire, chronique politique. Et depuis qu'elle est devenue littéraire, fin du 19e, alors qu'avant elle était uniquement les petits faits, elle est redevenue très sympathique. Et la chronique de langue, chronique de langage, s'est illustrée magnifiquement, je crois, dans les 30 dernières années. Bon, Bruno Dewel est dans cette chaîne avec moi-même, Voix du Nord, l'Est républicain. Il y a Claude Duneton, il y a eu Marcel Cohen, il y a eu un des tout premiers, Guggenheim. Qui a été peut-être...
Qui écrivait où, lui, Guggenheim ?
Alors, Guggenheim écrivait en 1952 dans l'enseignement français aux étrangers.
Oui.
Donc c'était l'idée de produire. Et ça a été le premier livre qui s'appelle « Les mots français ». Et je crois que tous on a...
Dans l'histoire et dans la vie.
Oui, oui, dans l'histoire
et
dans
la vie. Le fait de mettre dans la vie, en fait c'est ça la chronique de langue, c'est qu'il y ait la vie dedans.
Voilà.
C'est la vie du langage, ça c'est Jacques Sélard, c'était au Monde. C'est la vie qui est dans la chronique, c'est la langue et la vie,
Bruno Deweyne. Il faut éviter de tomber dans le purisme, effectivement, enfin dans le purisme au mauvais sens du terme. J'ai toujours à l'esprit ce très beau livre qu'a écrit Jacques Laurent, Le français en cage. Oui. Il ne faut surtout pas enfermer le français, il faut que le français reste vivant, il faut que le français justement montre son actualité. Et je rebondis là aussi sur ce que vous disiez tout à l'heure, le français aime sa langue, même s'il ne cesse de pester contre elle. Parce que toutes les réformes, ça c'est assez symptomatique, toutes les réformes de l'orthographe ont échoué depuis Philippe le Bel. Quasiment, même la dernière, les rectifications de 90 n'ont pas été suivies d'énormément d'effets. Pourquoi ? Eh bien j'avais lu un article dans le Nouvel Observateur qui était lumineux. Je crois que l'orthographe française ressemble au français, c'est-à-dire quelqu'un qui aime la règle, à condition qu'il puisse l'enfreindre. Il tient, oui, il tient comme à ses droits acquis, à ses bizarreries de la langue. Pourquoi ces mots en nous qui prennent un X, etc. Proposer aux Français. Bon, quand on leur demande est-ce que vous êtes d'accord pour que l'on réforme la langue, 70% de Français sont d'accord. Dès que l'on aborde, et un sondage avait été fait dans le magazine Lire à une certaine époque, pour poser ce genre de questions, dès que l'on aborde un problème particulier, est-ce que vous êtes d'accord pour que l'on remplace les PH par des F, pour que l'on supprime les pluriels,
plus personne n'est d'accord.
Parce que vous comprenez, on a sué sang et eau sur les bancs de la communale pour apprendre les exceptions, ce n'est pas pour que ensuite on vous dise, pour faciliter la tâche des autres, naturellement, on va simplifier.
Et vous allez dans ce sens-là, Bruno Deweyne ?
Moi, je suis, si vous voulez, pour une rationalisation.
C'est-à-dire ?
Attention, moi, je suis Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Je veux dire par là que le compétiteur souhaite que la langue conserve le maximum de bizarrerie, parce que c'est ce qui fait le sel de la compétition.
C'est pour ça que vous la gagnez, parce que vous les connaissez bien.
Bah, écoutez, on a fait ce qu'il fallait pour les apprendre. Bon, ce qui est différent. À côté de ça, l'enseignant, le professeur, sait que c'est une langue qui est très difficile de faire passer pour un public qui n'est pas toujours non plus aujourd'hui prodigieusement attentif ni concerné. Et là, c'est sûr qu'il y a des choses que l'on pourrait améliorer, rationaliser.
Nicolas ?
Est-ce que dans vos chroniques l'un et l'autre, vous avez un souci de vulgarisation ? Parce que par exemple, vous, Jean Prouvot, vous ne parlez pas, vous n'écrivez pas dans l'Est républicain comme vous écrivez à vos élèves de Cergy.
Pontoise,
pardon.
Alors, je ne sais pas si l'objectif de tout professeur ou de toute personne qui veut parler de la langue n'est pas justement de mettre de côté les mots difficiles, le jargon diachronique, synchronique, etc. Signifié de puissance,
le vadéretro-satanas jargon.
Pour justement dire la même chose, mais de manière simple. Ouais. Et c'est en ce sens d'ailleurs que l'Académie française est souvent porteuse de belles choses, parce que elle permet, je dirais, quand on regarde ses définitions, de comprendre des mots comme biotope très simplement. Alors, véritablement, on fait un effort quand je lis les chroniques de Bruno ou quand je relis les miennes. Je crois que l'effort est fait pour ne pas jargonner. On n'a pas besoin de jargonner. La langue, c'est ce que disait Richelet dans son tout premier dictionnaire de 1680. Le dictionnaire est le livre de tout le monde. La langue est à tout le monde. Alors, l'orthographe, c'est merveilleux parce que je pense à littérature, hein, qui n'avait qu'un T à un moment donné. Bon, on s'aperçoit du même coup que ce métier des lettres avec ce jeu sur l'alphabet nous permet à la fois de parler du sens du mot et de sa forme, et que la forme et parfois le sens bougent. Alors, moi, j'ai une citation qui vient à l'esprit de Jules Renard, « Le métier des lettres est tout de même le seul où l'on puisse, sans ridicule, ne pas gagner d'argent. » Je crois qu'on ne fait pas ça pour l'argent. Hein, les chroniqueurs, d'ailleurs, sont payés correctement, mais ce ne sont que des articles. On fait ça par plaisir, et l'envie de communiquer, l'envie d'expliquer la langue, de la partager, de jouer avec la langue. Mmh. C'est pour ça que j'aime bien cette image de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, parce que de temps en temps, on montre un peu la norme, parce qu'on a envie d'écrire bien,
on nous demande.
Et on la transgresse aussi.
Voilà, et on la transgresse en montrant les néologismes.
Mais Bruno Deweyne, est-ce que ces chroniques, par exemple, pourraient vous parliez d'élèves qui n'avaient pas forcément d'intérêt particulier à l'apprentissage de la langue? Est-ce que par le biais de chroniques, donc d'humour, puisqu'il y a beaucoup d'humour généralement dans les chroniques, on peut les amener à avoir envie de jouer, ou par celle de gens avec tout un travail autour des mots? Est-ce qu'on peut leur présenter des chroniques de langue et arriver Ah, les intéressés, vous le faites, vous ?
Je l'espère. J'avoue que je ne le fais pas avec mes élèves. Je ne sais pas s'ils lisent mes articles. Mais en tout cas, c'est un petit peu le projet que j'ai, disons, en direction des lecteurs de La Voix du Nord. Il y a dans ma chronique des jeux, et beaucoup de lecteurs m'ont confié qu'ils commençaient par faire les jeux. Hein, que quelquefois on me reproche qu'ils sont un petit peu difficiles.
Vous faites des chroniques et des jeux en dessous.
Oui, mais des jeux qui sont en rapport avec le sujet du jour, avec la chronique. Et c'est un moyen de les amener, je dirais, à lire l'article principal, parce que je ne suis pas là pour faire un bled. Le bled existe, il est très bien fait. Mais dans un grand journal régional, je crois qu'il faut surtout capter un auditoire, un lectorat, comme on dirait aujourd'hui, qui n'est pas particulièrement intéressé au départ, parce que les convaincus, vous savez, ils vont se diriger vers des publications spécialisées, des associations comme Défense de la langue française, etc.
Vos élèves ne sont pas des convaincus.
Mes élèves, naturellement, ils ont déjà un certain nombre d'heures de cours par semaine. Je ne sais pas s'ils sont toujours décidés à faire des heures supplémentaires. En allant lire ce que le professeur fait, je dirais, dans d'autres supports. Je ne pense pas. Je crois que les frontières sont relativement imperméable de ce point de vue. Pour l'instant, il y a encore des cloisonnements.
Jean, Prouveau ?
Oui, je partage évidemment ce point de vue complètement. Je crois que le lecteur, comme les élèves, aime, bien entendu, qu'on donne l'anecdote, qu'on amuse, que ce soit plaisant, mais qu'on aille vers le haut. C'est-à-dire de donner les difficultés, de donner l'histoire. Et parfois qu'on lui fasse découvrir des choses. Je pense à un article récent sur logement. Parce qu'il faut être honnête, parfois, je ne sais pas trop l'histoire du mot. Quand j'écris l'article logement, je ne me souvenais plus que ça avait pour origine un mot germanique loge qui voulait dire feuille et qui était simplement un auvent. Et puis petit à petit, c'était le auvent pour les militaires. Donc l'endroit du campement et du campement, du logement des militaires, s'est passé à l'habitation. Et alors, je suis ravi qu'en fouillant dans les dictionnaires, le trésor de la langue française par exemple, je découvre qu'il y a le logement en coup de fusil. Expression qui a disparu, au moment où à Paris les loyers sont aussi chers, ça doit être à peu près ça. C'est un logement tout petit, comme un coup de fusil.
Quand on dit dormir en chien de fusil, complètement recroquevillé.
Voilà. Je retrouve dans l'Assommoir, un peu plus loin, enregistré par un dictionnaire, un logement pour une anguille, c'est-à-dire long et étroit, le logement anguille. Alors bon, tout ça ne manque pas.
Vous commencez par vous faire plaisir, c'est très égoïste votre histoire, si je vous ai bien suivi.
Ah non.
Et nous apprenons des choses.
On apprend des choses.
À l'occasion de la polémique récente entre Delanoë et Léonce Desprez à propos de Paris-Plage, j'ai découvert que plage et plagiat avaient la même origine étymologique, ça vient du grec plagios, oblique, la plage qui descend en pente douce vers la mer, et le plagiaire qui était au départ un marchand d'esclaves qui avait un regard tordu.
Ça vous arrange parce que polémique, elle était que le Paris-Plage aurait été emprunté à Paris.
L'étymologie est souvent révélatrice. L'étymologie, crois vraiment que ça, c'est en profondeur dans les mots. On la porte en nous sans trop le savoir. Mais elle est là dans la société en général. Mais parfois, il y a des histoires drôles aussi qu'on n'ose pas dire. Ben, à propos de logement, je repérais une citation de Scholl qui dit, à propos de Madame X qui avait un passé assez libertin, « L'essentiel est fait, on vient de poser le trottoir ». Oui, c'est pas très gentil pour cette dame qui était libertine. Donc là, on a des choses drôles parfois qu'on n'hésite pas
c'est
à donner.
C'est une bonne école pour vous, tout ça, parce que lorsqu'on vous lit, il y a des choses drôles et vous jouez énormément avec les sens des mots, avec les doubles, triples et quadruples sens. Hein.
Chaque mot a sa personnalité. C'est ça qui est merveilleux quand on le choisit. C'est comme une personne. Bien sûr, il y a un nez, il y a des yeux, il y a une étymologie, etc. Mais chaque mot a sa caractéristique.
Et Nicolas ?
Et c'est ça le merveilleux, c'est de la montrer, de la mettre en avant.
La presse française n'est pas en très bonne forme, la presse quotidienne. Et pourtant, les patrons de presse continuent à chroniquer, faire chroniquer sur la langue. Est-ce que c'est quelque chose de très français, ça ?
Je ne suis pas sûr que nous soyons très nombreux. Je vous arrête. Monsieur Prévost, certainement
en tout cas,
plus.
En tout cas, que la presse quotidienne régionale
je crois
confie
que
à
tout
une
bon
personne
doit avoir une chronique de langue. Et les journaux qui n'en ont pas font une grossière erreur parce que c'est un public qui est là, qui découpe la chronique de langue. Je découpais les chroniques.
Nous n'allons pas nous faire que des amis.
Non, ils vont faire des chroniques.
Ah d'accord.
De même que toute bonne radio doit avoir des chroniques de langue au bout d'un moment aussi, je crois. Parce que ça plaît aux jeunes, à nous évidemment de les adapter, d'avoir des mots jeunes, des mots anciens, de mélanger tout ça.
Ça plaît à tout le monde,
ça
réunit.
Monde. Je n'ai jamais vu quelqu'un me dire « c'est ennuyeux ».
Parlons-nous.
Pascal Lafitte-Certa.
Histoire des chroniques de langue avec Jean Pruvot, donc l'Est républicain, Bruno Dohel, qui lui est à la Voix du Nord. Voilà, j'avais perdu le journal. Qu'est-ce que vous voulez dire, Nicolas?
Jean Pruvot a commencé une histoire drôle pendant une pause.
Pour rebondir, vraiment, Bruno Dohel a vraiment raison de dire que c'est en France une passion pour les mots, la langue. Et c'est un directeur de zoo qui en rencontre un autre et il voudrait avoir un chacal supplémentaire. Et puis peut-être même deux. Alors il lui écrit et il commence la lettre en disant « Monsieur le directeur, je souhaiterais, comme nous en avions convenu, que vous m'envoyiez deux chacals. Je vous prie de croire en mes sentiments les plus respectueux. » Puis il relit, il dit « Non, je raye, je souhaiterais que vous m'envoyiez deux chacos. » Et puis il relit encore une fois et puis il dit « Non. Je souhaiterais que vous m'envoyiez un chacal. PS, pourriez-vous en envoyer un supplémentaire ?»
Ça, c'est les béquilles qui ne sont pas très bons en orthographe.
Vous dites, Jean Pruvot, qu'il y a derrière chaque chroniqueur un collectionneur de mots.
Je le crois. Là, les collectionneurs... Quelqu'un qui lit un dictionnaire de A à Z est quand même une sorte de collectionneur de mots.
Oui.
Nous devons nous désintoxiquer. Après une épreuve comme celle du championnat, pendant 6 mois, nous sommes incapables de lire un livre autrement que pour le mot. C'est-à-dire, nous sommes attirés par l'éventuelle coquille, nous ne faisons plus attention au sens, nous sommes littéralement intoxiqués. Et ça, il faut que j'y prenne garde, parce que quand je passe à la chronique, naturellement, on disait tout à l'heure, il faut revenir à une langue qui soit accessible à tous. Donc, nous devons nous débarrasser de ça en ce qui nous concerne.
Donc, vous les avez intériorisés et après, il faut vous en détacher. C'est un peu ça.
Parce que naturellement, il ne faut pas se gargariser de mots rares. Ça passerait pour effroyablement prétentieux.
Moi, il se trouve que je viens de réviser un dictionnaire de synonymes et d'analogies pour Bordas. Et j'ai donc eu plus de 80 000 mots à reclasser, à mettre en ordre pour faire une sorte de classement thématique. Quand j'ai fini ce travail qui m'a pris quasiment un mois, 8 heures par jour ou 13 heures, enfin, ça dépendait des jours. J'avais la tête pleine de mots et me sortaient des mots même la nuit, des listes intéressantes. Bon, sur
ça débordait.
Il y a des milliers de mots pour l'argot, pour dire l'argot, par exemple. Alors j'avais ces listes de dictionnaires de synonymes analogies et je disais Bordas est en train de me faire devenir fou parce que les mots étaient là, jaillissaient. Donc c'est vrai qu'il y a de temps en temps dans chronique il y a un peu maladie. Donc on va se recentrer sur un mot pour pouvoir
la maladie chronique,
c'est une maladie merveilleuse. Comme je dis toujours que je suis dicopathe, on est chronopathe.
J'appelle ça une drogue douce.
Oui,
Nicolas,
Bruno, vous parliez des coquilles. Je me pose une question. Est-ce que quand vous envoyez vos chroniques à la Voix du Nord, est-ce que le correcteur passe derrière vous? Est-ce qu'il trouve quelque chose?
Non.
Champion
pour être,
du monde.
Pour être honnête, j'assume l'article de bout en bout.
Champion du monde.
Je vous rassure, je ne me fais pas plus confiance que je ne ferai confiance.
Vous arrivez à douter encore.
Ah oui, bien évidemment. Mmh. Et c'est normal. Je crois que l'exigence, c'est la qualité première dans ce domaine.
On a vu comment fonctionnait Jean Pruvot, donc avec ses mots imposés. Je voudrais quand même qu'on parle un tout petit peu de votre inspiration, Bruno Dohel, parce que j'ai été fasciné par une chronique en particulier. Elle est titrée Un mois de prison pour avoir voulu payer en liquide. J'ai commencé à lire cette chronique, je me suis dit, mais c'est pas une chronique de langue, c'est un article, c'est un fait divers.
C'est un peu vrai.
Donc l'histoire est celle d'un jeune homme qui, faute de monnaie, urine sur des sanisettes, il se fait choper.
Non, sur un distributeur de billets de banque.
Ah oui, voilà, c'est ça, distributeur de billets de banque. Il se fait prendre et il écope d'un mois de prison.
Ça a été un délire, dans la mesure où j'ai laissé entendre que les gens qui avaient une carte de crédit à la main ne se sentaient plus pissés. C'était l'occasion, naturellement, de réactualiser la formule. Et puis, de fil en aiguille, j'ai aussi ajouté que, naturellement, parce qu'il a fait de la prison, ce monsieur, un mois de prison. J'ai ajouté que, naturellement, il ne fallait jamais dissimuler. Il valait toujours mieux dissimuler son débit quand on était face à une banque. Et de fil en aiguille, je suis venu à expliquer pourquoi on avait appelé liquide
l'argent
alors qu'au départ, on pourrait penser que c'est du solide.
Oui.
Eh bien, c'est tout simplement du liquide parce que, Jean Pruvot pourrait nous le dire certainement bien mieux que moi, c'était des biens qui n'étaient grevés
par aucune dette.
Voilà,
ça vient de l'italien du XVIe siècle.
L'argent disponible immédiatement. Voilà.
Ça, c'est tout à fait notre manière de faire. C'est-à-dire que moi, je pense à Vespasien, l'empereur Vespasien, qui avait mis une taxe sur les Vespasiens.
L'argent n'a pas d'odeur.
Puis je pensais à laisser pisser le Mérinos ou Louis XV, voyant un mouton astrakhan qu'on lui présente et qui pisse sur le tapis, disent laisser pisser le mérinos.
C'était en fait, c'est ça. Vous partez.
Oui, on a un délire.
Il y a un vrai délire hein, dans votre histoire.
Oui, oui.
Le mot délire, il convient.
Oui, bah, oui, parce que là, je reconnais que le rapport avec la langue était quand même assez ténu. Il y a, bon, évidemment, quand il y avait ce fameux médecin qui avait fait congeler sa femme, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un humour un peu noir d'ailleurs, ça a défrayé la chronique également. Bon, là, expliquer les verbes en elé qui font e accent grave, l e et non pas e deux le sur le modèle du verbe appeler, là je dirais que c'est presque évident. Bon, quelquefois j'avoue que expliquer nu-tête, nu-jambe et nu-pied, tout simplement parce que Chirac est apparu sur sa terrasse de Brégançon dans le plus simple appareil, bon, on pourra me dire que c'est un petit peu tiré par les cheveux et même tiré par d'autres poils que les cheveux. Mais je pense que c'est aussi ce qui peut, comme je le disais tout à l'heure, porter des gens sur ce, enfin, vers ce genre de chronique.
Nicolas?
Cela dit, c'est un puits sans fond, là. Vous avez des idées. Il suffit d'ouvrir n'importe quel journal, regarder la page des faits
divers. Oui, quelquefois, on a l'embarras du choix. Il y a des semaines qui sont un petit peu plus...
Moi, je vous disais que vous aviez une manière, peut-être, de voir le monde et l'actualité différente. En fait, est-ce que vous êtes tous les deux des hommes normaux? Est-ce que vous pouvez...
Quand on a la caboche qui déborde de mots, c'est pas sûr.
Précisez votre
Je précise, est-ce que vous pouvez lire un article sans penser à vos chroniques? Est-ce que vous pouvez écouter une conversation sans penser à vos chroniques? C'est difficile quand même.
Sans penser aux mots, c'est difficile. Mais je pense à une citation de Lamartine. Je crois qu'un chroniqueur, c'est un peu un poète des mots aussi. Et Lamartine disait, les poètes sont les chroniqueurs merveilleux des nations. Bon, alors, on aimerait bien être effectivement les chroniqueurs merveilleux de la langue, dans le mot merveilleux avec un petit peu le merveilleux, c'est ce qu'elle a de joli, de beau.
On a parlé des chroniques écrites parce que c'est votre terrain, hein, l'écrit. Aujourd'hui, ça va plus loin. Il n'y a pas que la presse écrite, il y a la télé et il y a la radio. Oui. Est-ce que ça a fait évoluer, mais alors vraiment en deux mots, est-ce que ça a fait évoluer l'écriture des chroniques, Jean Prouvot, qui avait fait aussi un peu de chronique télé, vous hein.
Radio, que... oui. C'est à peu près la même chose, sauf que c'est très différent. Dans la chronique de langue écrite, on a un nombre de signes, ce qui est tout à fait normal, et on a énormément d'informations. Il faut résoudre tout à 1600 signes. On a tout le temps qui convient pour le faire. Dans la chronique orale, moi, je prends des feuilles, je prépare par écrit la chronique orale.
Ah bah évidemment.
Bien sûr. Et je tape en caractère 21, ce qui correspond à une minute. Et je sais comme ça que j'ai 2 minutes, 2 minutes 30, et j'ai la chose précise. Et alors, à ce moment-là, l'intérêt, c'est d'avoir un dialogue, hein, de discuter comme on le fait ici, et que quelqu'un renvoie la balle et que ça soit léger.
Ouais, ça et à léger. La télé, on a maintenant Bernard Cerquiglini, par exemple, sur TV5, qui chaque jour fait Merci Professeur. C'est une chronique télé. C'est encore un peu difficile. Là, ça fonctionne bien. Est-ce qu'il faut être un spécialiste, d'ailleurs, pour faire de la chronique de langue à la télé ou autre? On sent bien qu'il faut bien la connaître, cette langue.
Je ne crois pas. Je pense que...
Surtout bien connaître la télé.
Voilà, c'est surtout ça. Je crois que dans le chroniqueur de langue, il faut une sorte de professeur nimbus sympathique, agréable. Et on peut l'être à la radio, on peut l'être à la télévision.
C'est pour ça qu'Alain Rey s'était prêté à France 2,
oui,
à ses chroniques télé, en faisant le clown, par exemple.
Oui, mais pourquoi pas.
Professeur Nimbus.
Voilà. Oui, mais d'accord. Je crois. On délire, c'est bien le mot. Alors, est-ce que c'est le contraire de lire? De délier, délire, je ne sais pas.
Là, je vais vous faire parler d'autres mots que les vôtres.
Ce sera la prochaine chronique, délire.
Je vais vous imposer un petit peu quelques mots, en fait, puisque nous sommes, nous, ici, à Europe 1, en partenariat avec la Semaine de la langue française, qui se déroulera cette année du 10 au 20 mars. Et puis nos auditeurs peuvent retrouver sur le site d'Europe1.fr les mots de la semaine française. On s'est associé en fait à la délégation générale à la langue française et aux langues de France pour mettre quelques mots, 10 mots migrateurs cette année en avant. On propose à nos auditeurs tout simplement de nous dire quel est leur mot préféré. Et puis ensuite, on leur propose d'aller beaucoup plus loin dans la réflexion en leur demandant de traduire en langue française des notions, des mots venus d'ailleurs et que nous utilisons tels quels. Alors, en l'occurrence, ils sont tous anglo-saxons, puisque c'est de ce coin-là que nous arrivent des mots qu'on utilise beaucoup. Et on demande à nos auditeurs, certains au départ, oui, mais on se rend des choses, voilà. On se prête et on
flirter,
se rend.
C'est compliqué, fleurette.
Oui, mais le flirter, on l'a pas, hein, là, en l'occurrence, j'en prouve dans la liste. Et il faut traduire ces mots. C'est un travail qui est fait par les commissions de néologie et de terminologie. Alors, je vais vous demander à tous les deux, déjà, parmi les 10 mots migrateurs, abricot, amour, bachibouzouk, bijou, bizarre, archi-clown, maître, passe-partout et valsé. Quel serait votre préféré ou quel est votre préféré? Je commence par vous, Jean Prévost.
Bah alors moi, c'est Abricot.
Bah pourquoi vous voulez tous Abricot, bah là, depuis le début?
Je vais vous expliquer. D'abord, c'est un souvenir personnel. Ma belle-mère avait des abricotiers, faisait des tartes aux abricots.
Et vous mangez les abricots à même l'arbre.
Ça, c'est l'arbre capital. Bon, ensuite, c'est un sens, c'est au début de l'alphabet, alors c'est important aussi. C'est un sens qui n'a jamais changé. Le mot a changé de forme, mais le sens a toujours été le même. Il y a peu de mots qui ne changent pas de sens. Depuis le départ, c'est ce type de fruit. Bon, ça a eu quelques variantes. Ensuite, alors là, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est que, comme le dit Pierre Loti, un abricot que nous venons d'ouvrir pour le partager. Ce fruit se partage d'emblée. On le donne, on le coupe en deux, on en donne une autre moitié. Le geste est presque spontané. Après, il y a la couleur d'abricot. Alors là aussi, ça pose un certain nombre de questions. Parce que c'est un abricot, normalement, il est vert. Quand il est bien, quand il est en pleine force et on mange l'abricot mort, jaune, c'est quand il est mort.
Qu'il parce qu'on le ramasse vert, on le laisse mûrir et il devient abricot.
Et puis il y a le troubadour abricot qu'on a complètement oublié. Bah, au 19e siècle, ceux qui, dans les pièces de théâtre, jouaient le rôle de troubadour avaient des couleurs abricot. Et on appelait ça le troubadour abricot. Alors, tout ça me fait vraiment aimer le mot.
Et vous, Bruno Dowell?
Moi, je vais être d'une platitude à faire pleurer. Je choisirais amour.
Pourquoi?
Mais pas tellement pour des raisons d'étymologie. Tout simplement parce que c'est un des rares transsexuels de la langue française. Vous savez que quand même, avec Délice et Orgue, il est masculin quand il désigne l'amour de passage, je dirais presque le corps à corps physique. Et il devient féminin quand, naturellement, il s'agit des grandes, des belles amours, de la passion littéraire. Et je serais très intéressé par cette interprétation. Les féministes, avec raison d'ailleurs, dénoncent très souvent le côté machiste de notre lexique. Et pour une fois, voyez, c'est le masculin qui renvoie à ce qui est finalement un peu vulgaire, alors que le féminin, lui, est crédité de quelque... Alors, c'est un contre-exemple que je me permets de proposer, voilà, tout simplement.
Comme l'abricot
alors,
fendu.
Les nouveaux mots, collector, fashion, flyer, fun, happy hour, making of, people, podcast, spam, speed dating, ça
court,
c'est
hein.
Moins poétique, vous faites court, lequel vous choisissez, qu'est-ce que vous nous proposez, Jean Prévost,
dans cette liste. Moi, je trouve que collector vient du français.
D'accord. Bon. Mais on le laisse en collector, alors, pour vous.
Collecteur.
Collecteur.
J'ai pas trop écouté, effectivement, les propositions faites. Mais c'est le mot que je choisirais. People, c'est peuple.
D'accord. Et vous, Bruno Dowell?
Écoutez, making of, j'aime pas tellement, parce que ça me paraît imprononçable. Je crois que ça signifie, en fait, c'est la genèse de l'œuvre. Évidemment, la genèse n'est peut-être pas suffisamment rock'n'roll, comme on dirait aujourd'hui. Je sais pas, les secrets de fabrication, l'envers du décor serait peut-être
un
peu plus poétique. Et alors moins poétique, la cuisine, l'arrière-cuisine, parce que c'est là que se mitonnent les meilleurs plans. Je pense que l'envers du décor serait peut-être un petit peu plus présentable que ce making-of que j'ai personnellement beaucoup de peine à prononcer.
Vous faites comme Jean Prévost, comme Bruno Dowell, vous venez sur le site d'Europe 1, europe1.fr, votre mot préféré, les nouveaux mots, vous les traduisez, vous vous inspirez de ce que nous disent les spécialistes, et puis vous vous laissez. Allez, en tout cas, messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bruno Dowell, on vous lit sur La Voix du Nord. Il y a le recueil à la fortune du mot, édition La Voix du Nord, donc un florilège des chroniques. Et Jean Prévost, on vous lit sur l'Est républicain. Je cite deux ouvrages, il y en a d'autres. Hein. Les dictionnaires français, outils d'une langue et d'une culture, c'est édition Aufris. Et aux éditions PUF, les dictionnaires français. Voilà pour aujourd'hui. De quoi parlerons-nous la semaine prochaine? On parlera des 10 mots migrateurs, justement. Les 10 mots de la semaine de la langue française pour tout savoir de leur voyage jusqu'à nous. Vous passez une excellente semaine, c'est ce que je vous souhaite et on se retrouve dimanche. Au revoir.
Merci.
C'était Pascal Lafitte-Certa dans un instant écolographie et Michel Field.
Merci.
C'était Pascal Lafitte-Certa dans un instant écolographie et Michel Field.